En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour, c'est une certitude, depuis le début de l'année 2007, la planète connaît des épisodes climatiques extrêmes. En janvier et avril 2007, par exemple, les températures de surface sur Terre ont été respectivement plus chaudes de 1,89 et de 1,37 par rapport aux moyennes enregistrées depuis 1880. Aucun continent n'a été épargné par les cataclysmes. En Europe, par exemple, l'Angleterre et le Pays de Galles ont reçu de mai à juillet la quantité de précipitations la plus élevée depuis 1766. En Asie, à Oman, les habitants ont vu le premier cyclone de leur histoire. Parallèlement, une vague de chaleur a frappé l'Inde au milieu du mois de mai avec des températures atteignant 45 voire 50 degrés. En Afrique, le Mozambique a été frappé en février 2007 par des inondations provoquant la mort de 30 personnes et l'évacuation de 120 000 autres. Et puis parallèlement, on pouvait skier en Afrique du Sud avec les 25 cm de neige fraîchement tombée. Enfin, en Amérique latine, l'ouragan Dean, en août et septembre 2007, a provoqué sur son passage la mort d'une trentaine de personnes dans les Caraïbes et au Mexique. L'Uruguay a connu début mai ses pires inondations depuis 1959, alors que début juillet, une vague de froid a entraîné des chutes de neige importantes dans le sud de l'Amérique latine et des températures extrêmement basses, moins 22 degrés en Argentine et moins 18 degrés au Chili. Dans ces conditions, et face à tous ces changements, comment les systèmes écologiques réagissent-ils ? La faune marine et terrestre est-elle amenée à évoluer plus vite pour assurer sa survie dans un milieu bouleversé ? Des chercheurs français et étrangers se sont réunis en juillet 2007 à la Fondation Simone et Cino del Duca, fondation de l'Institut de France, lors d'un colloque de plusieurs jours intitulé « Écosystèmes et événements climatiques extrêmes » pour faire le point sur les événements climatiques et leurs conséquences environnementales, économiques et sociales. Canal Académie retransmet une grande partie de ses interventions, à la fois en anglais et en français, découpées en 5 émissions intitulées « En colloque ». Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans la médiathèque de Canal Académie. En attendant, dans cette 3e partie, Nathalie Breda et Lucien Laubier développent au cours de leurs interventions les conséquences des bouleversements climatiques sur la faune terrestre et marine. Nathalie Breda de l'Institut National de Recherche Agronomique, département écologie et écophysiologie forestière, détaille dans cette première demi-heure les empreintes des bouleversements climatiques du passé à partir des cernes des troncs d'arbres. Cette communication est en français.
Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que pour les forestiers, la notion d'événement extrême est très appliquée, c'est-à-dire que les forestiers considèrent qu'un événement est extrême s'il produit des dysfonctionnements suffisamment importants pour perturber leurs pratiques, leurs aménagements, leurs plans de gestion, en d'autres termes. Et finalement, eh bien, c'est seulement quand on a un dysfonctionnement suffisamment important pour que l'aménagement soit remis en question que les forestiers considèrent que l'événement est majeur. Et c'est quelque chose que je voudrais vous illustrer ici à partir de la partie française du réseau européen qui surveille l'état sanitaire de nos forêts en France et en Europe. Et ces observations de surveillance sont mises en place depuis les années 1989. Et je vous représente ici des petits hexagones qui schématisent la France, coupés en 5 régions, dans lesquelles les observateurs du département de la santé des forêts font des observations, à dire d'experts, de l'état sanitaire des forêts, des intensités de stress, de problèmes biotiques et... Aussi, il compte les arbres morts, donc c'est la ligne du bas, où vous avez finalement des indicateurs ici qui sont visuels, c'est pour cela que je vous les présente aujourd'hui. Vous voyez que en 2003, ça ne marche pas, voilà. En 2003, l'ensemble des secteurs pratiquement sont devenus rouges, donc les observateurs du département santé des forêts ont considéré qu'il y avait une sécheresse sévère, même si elle n'était pas quantifiée dans ce genre d'approche. Et vous constatez qu'en 2004, donc l'année suivant la sécheresse, c'est la première fois que l'indicateur de mortalité a changé de couleur et est devenu rouge depuis l'existence du réseau de surveillance. Donc là, pour les forestiers, il y a vraiment eu une mortalité significative qui a traduit l'intensité de l'événement extrême. Une autre façon de le regarder, c'est toujours sur la forêt française, ici en vert pour les arbres feuillus et en rouge pour les résineux. Vous voyez qu'un autre indicateur, qui est le pourcentage d'arbres morts sur des placettes qui sont suivies donc depuis 89, ben vous voyez que le signal de mortalité était relativement faible, de l'ordre de 0,2% en moyenne, et que en 2004, donc après l'événement de sécheresse et de canicule de 2003, une explosion de mortalité très spectaculaire, en particulier sur les conifères, et moins marquée, mais toutefois significative sur les feuillus, qui traduit un événement extrême s'accompagne d'une mortalité. Je montre ici quand même une augmentation de mortalité qui était le résultat des sécheresses répétées des années 89, 10, 11, qui était tout au début de la mise en place du réseau d'observation, donc qui est passé plus discrètement dans le grand public, mais qui nous, en termes d'études de dépérissement, nous a beaucoup intéressés. Nous allons y revenir. Ce que je voudrais vous faire noter ce matin, c'est que ces événements extrêmes climatiques induisent des mortalités, mais pas uniquement. Le stress climatique n'est pas le seul élément à prendre en compte. On a très souvent des interactions. Dans le cas ici des résineux, on a eu des fortes interactions qui ont précipité et fait exploser les taux de mortalité avec des insectes de type scolyte, qui restaient à des niveaux de population très élevés dans les écosystèmes français depuis la tempête de 89. Donc finalement, qui ont profité de l'affaiblissement des arbres par la sécheresse pour les coloniser et les précipiter vers des mortalités. Donc ces notions de dépérissement sont depuis assez longtemps perçues par les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là comme étant des processus complexes avec des tas d'interactions et qui s'enchaînent avec une certaine difficulté à mettre en évidence quel est le facteur principal et quel est le facteur qui aboutit à la mort de l'arbre. Et en fait, on est encore assez mauvais pour savoir pourquoi et comment un arbre meurt. Je reprends ici ce qu'on appelle la spirale du dépérissement qui avait été proposée par Magnon, qui sépare des niveaux de facteurs différents, des facteurs qui sont dits prédisposants, qui sont par exemple les conditions stationnelles, qui sont les pratiques sylvicoles, qui sont les types d'espèces et les provenances génétiques des arbres plantés, des facteurs déclenchants qui sont par exemple, des sécheresses, mais qui peuvent être aussi des attaques de défoliateurs ou d'autres stress biotiques. Et puis des facteurs aggravants, qui sont tout ce qui peut arriver de manière fortuite et conjoncturelle, en même temps ou un peu après ces événements déclenchants. Alors, dans le contexte des événements extrêmes, eh bien finalement, avec un peu de recul, je considère que les événements extrêmes, qu'ils soient d'ailleurs climatiques ou biotiques, je vous donnerai un exemple où on a des événements extrêmes qui sont liés à des toutes petites chenilles qui peuvent induire des cataclysmes dans nos écosystèmes. C'est finalement, ces événements extrêmes peuvent être, selon les cas et selon les scénarios, selon les histoires de dépérissement, des facteurs prédisposants, déclenchants ou aggravants. Alors, comment nous, dans nos approches d'endroécologistes, on retrouve les événements extrêmes? Eh bien, en fait, c'est très simple puisqu'ils sont enregistrés dans les arbres. Et c'est en carottant les arbres et en regardant les chronologies donc d'accroissement et les variations interannuelles des largeurs de cerne que nous pouvons dater et un petit peu réfléchir sur les événements extrêmes. Pour cela, je vais vous présenter les résultats d'une première analyse de notre base de données qui résulte, pour les données que je vous présente ici, de 5 grosses études régionales en France, qui concernent aussi 10 études de massifs forestiers et l'ensemble des placettes du réseau de niveau 2 en France qui s'appelle Renecofor et qui comporte toute une liste d'espèces importantes pour la forêt française. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on met en œuvre une analyse dendroécologique? On mesure les largeurs de cerne à partir d'échantillons de bois, ici par exemple sur cette photo. On retrace une courbe avec les variations d'année entre année de largeur de cerne. On voit par exemple ici que l'année 76 sur ce profil est une année de faible croissance. On réalise ce type de courbe sur une population d'arbres très importante. On travaille toujours avec des effectifs très élevés. On synchronise les courbes et on constate que certaines années, qu'on appelle des années caractéristiques pour la croissance, se traduisent dans tous les arbres ou pratiquement la majorité de la population d'arbres par un cerne étroit, donc pour des années défavorables, ou par un cerne large pour les années favorables. Et donc finalement, ces années caractéristiques sont pour nous un moyen d'appréhender la perception des arbres de ces événements extrêmes qui sont souvent majoritairement climatiques. Et qu'on peut représenter de la sorte. Ici, vous avez des couleurs rouges et bleues qui distinguent les années de bonne croissance en bleu et de mauvaise croissance en rouge pour toute une période qui va des années 1729 à 2000 et pour 24 études réparties sur l'ensemble du territoire français. Et donc, en zoomant et en analysant un petit peu cet atlas d'années caractéristiques, on peut essayer de regarder s'il y a des cohérences entre espèces, des cohérences régionales ou des interprétations climatiques à large échelle qui pourraient toucher l'ensemble du territoire. Donc, quand on prend ce tableau que je viens de vous présenter avec des années qui sont caractéristiques ou non, donc qui sont dans deux familles, caractéristiques ou non caractéristiques, et qu'on en fait une analyse factorielle, eh bien, on peut distinguer, ici, pour les 20 études qui ont été prises en compte, on peut distinguer, c'est les couleurs qui apparaissent ici, des positions différentes pour les espèces. Ici, vous avez les sapins, ici, vous avez les hêtres, ici, les chênes pédonculés, et ici, les chênes sessiles. Et finalement, ce type de position sur l'information de fréquence, pas de fréquence de présence ou d'absence d'années caractéristiques, nous permettent de réfléchir sur la réponse différentielle des espèces au climat en termes de fonctionnement et d'écophysiologie. Et pour ça, je vais vous illustrer deux exemples opposés. Ici, sur ce graphique, vous n'avez qu'une espèce résineuse, qui est le sapin. Tout le reste sont des espèces feuillues. Et je vais vous montrer comment, justement, ces deux types de forêts, avec des couverts persistants ou des couverts qui régulièrement perdent leurs feuilles, vont sentir et percevoir des sécheresses, la même sécheresse de manière différente, et finalement donc se traduire par des réponses des arbres contrastées. Ici, je vous illustre au cours de l'année 2003 ce qu'on peut calculer et ou mesurer comme évolution de la quantité d'eau dans le sol, donc par calcul de bilan hydrique, pour deux types de forêts. Ici, une forêt feuillue, par exemple les hêtres ou les chênes dont je vous ai parlé précédemment. Et à côté, si on imaginait un peuplement résineux, par exemple de sapins ou de douglas ou d'autres espèces à feuilles persistantes, eh bien voilà la dynamique du dessèchement du sol sous cette forêt résineuse. Ce qu'on constate, c'est que la date à partir de laquelle les deux peuplements vont passer la ligne, passer dans la zone orange de mon graphique, c'est-à-dire vont être en période de régulation de leurs échanges gazeux et de fermeture de leurs stomates, donc de limitation de leur croissance, eh bien, la date à laquelle donc les arrêts de croissance vont se produire va être très décalée dans le temps et beaucoup plus précoce pour les peuplements résineux que pour les peuplements feuillus. L'autre information qu'on retient sur ce graphique, c'est que la longueur de la période de restriction de croissance va être beaucoup plus importante sous le peuplement résineux que sous le peuplement feuillu. Et pourquoi cela ? Eh bien, simplement déjà par les différences de phénologie, puisque le fait que les espèces persistantes aient des aiguilles toute l'année va avoir un impact sur la consommation en eau, qui va être beaucoup plus importante tout au long de la saison, qui va être répartie différemment sur la saison, et en particulier au printemps, qui va avoir un gros enjeu de consommation. Et puis, l'autre flux qui est perturbé par la présence des aiguilles, c'est l'interception de la pluie, qui va être donc beaucoup plus importante chez les résineux que sous les feuillus. Au final, ça se traduit donc par des sécheresses qui vont être beaucoup plus précoces sous les résineux que sous les feuillus, avec des intensités plus importantes, et également des réhydratations à l'arrière-saison, quand il se met à pleuvoir à nouveau, beaucoup plus tardives. Au final, des sécheresses plus longues qui vont plus affecter la croissance des arbres. Alors, je voudrais revenir sur cette notion de perception par les forestiers et par le grand public, d'ailleurs, de la notion d'événement extrême. En 2003, ça a été tout à fait amusant de constater comment les débats assez stériles, je dois dire, ont émergé, à savoir si 2003 était la sécheresse du siècle ou si on avait connu d'autres sécheresses. Et tous les forestiers venaient vers moi pour savoir si c'était pire ou non que 76. 76 étant la sécheresse qui avait marqué les forestiers jusque-là. Donc pour répondre à ça, nous utilisons des indicateurs de sécheresse qui sont dérivés du calcul de bilan hydrique que je viens de vous présenter. Et je vous présente ici un hit parade des 10 années les plus sèches que j'ai pu mettre en évidence sur une période de 50 ans, donc depuis 1950 dans le nord-est de la France, pour justement essayer d'éclairer la hiérarchie des années sèches les unes par rapport aux autres. Et la première chose que je dis toujours quand on me pose cette question, c'est qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on parle d'années extrêmes pour des peuplements feuillus ou pour des peuplements résineux ? Et pourquoi c'est important ? Eh bien, parce que effectivement, si on fait le calcul pour des peuplements feuillus, 2003 apparaît comme l'année la plus contraignante en termes de bilan hydrique pour les peuplements feuillus dans cette région de France. 76 n'apparaissant qu'en quatrième position. À l'inverse, sous des peuplements résineux, eh bien, vous voyez que 2003 n'arrive pas en tête de mon hit parade et n'arrive qu'en cinquième position. Donc finalement, l'année 2003 pour les résineux n'a pas été la plus excessive des sécheresses qu'on ait connues. Donc ça, c'est une première chose qui permet de relativiser ces classements. Et là, vous voyez même que 76 arrive en dixième position. Ce que je tiens toujours à rappeler ici aussi, c'est que vous voyez, les graphiques sont à la même échelle. Donc vous voyez que l'intensité du déficit est deux fois plus faible sous les feuillus que sous les résineux. Donc là encore, un effet de la persistance du feuillage qui joue à la fois sur les flux d'eau qui entrent et qui sortent de l'écosystème. Alors, ce que je vous ai montré là s'intéresse à la réponse instantanée des arbres, puisque quand on parle d'années caractéristiques, on ne regarde que la réponse d'un arbre à un événement particulier. Pour comprendre ce qui se passe et un peu interpréter les différences, par exemple, entre les espèces, on est très rapidement obligé d'intégrer ces réponses dans une chronologie et de ne pas s'intéresser uniquement à des événements extrêmes, mais à la réponse sur plusieurs années des arbres, parce que ces arbres ne sont pas des espèces qui répondent instantanément, mais on va mettre en évidence des effets différés dans le temps. Alors comment on peut analyser ces réponses climatiques de la croissance en termes de chronologie ? Bien voilà un exemple ici d'une courbe de croissance observée dans le nord-est de la France sur une grosse population de hêtres, donc qui montre des variations avec des années alternativement de bonne et de mauvaise croissance. Et quand on recherche des corrélations avec des facteurs climatiques qui pourraient expliquer ces variations interannuelles, eh bien, on constate que les pluies, par exemple, du mois de juin expliquent un petit quart de la variance interannuelle. Que quand on passe à un calcul de bilan hydrique, simplement le bilan hydrique du mois de juillet explique plus de la moitié de la variance interannuelle. Donc par ce type d'approche, on peut aller jusqu'à modéliser et reconstruire ce type de courbe dans le cas du hêtre avec des facteurs explicatifs qui sont principalement les sécheresses estivales de l'année en cours, mais aussi avec un effet différé du déficit hydrique de l'année précédente. Donc déjà ici, une notion d'effet différé qui est relativement à court terme puisque c'est sur l'interaction entre l'année en cours et l'année précédente. Quand on fait ce même exercice en comparant dans la même forêt la réponse des chênes et des hêtres, qui sont deux espèces majeures pour notre forêt et qui ont des anatomies de bois et des fonctionnements écologiques et écophysiologiques différents, eh bien on constate que ici c'est sur la forêt de Fontainebleau dans le centre de la France, sur une population de chênes et sur une population de hêtres, qui arrive ici, vous voyez que les variations interannuelles dans le même climat, dans la même forêt, pour des espèces différentes, feuillues toutes les deux, ne donnent pas les mêmes profils, en particulier sur ici cette séquence autour de l'année 76, donc qui était la dernière des grosses sécheresses qui avait été étudiée sur cette séquence. Eh bien, on voit que pour le hêtre, on retrouve bien ce que je viens de vous montrer, une réactivité très forte à l'accident de déficit hydrique. Par contre, sur les chênes, eh bien, vous voyez que la réduction de croissance s'est étalée sur presque une dizaine d'années. Donc, on a là une réponse effectivement à la sécheresse de 76, mais aussi avec des interactions, avec des effets différés, qui sont d'ailleurs compliqués et qui ne peuvent pas être pris en compte qu'on n'arrive pas à reproduire de manière simple pour l'instant dans ce type d'approche de modélisation statistique. Donc finalement, du point de vue écophysiologique, ces résultats nous font penser que les effets d'une année sur l'autre se passent par le processus de stockage de composés de réserve qui servent aux arbres et en particulier aux feuillus entre deux années pour permettre le démarrage de la croissance et la mise en place des feuilles au printemps suivant. Et si au cours d'une saison, la quantité de photosynthèse n'a pas été suffisante pour à la fois assurer la croissance nécessaire des arbres et puis aussi mettre un peu de côté des réserves, des sucres pour assurer le démarrage du printemps suivant, on peut s'attendre donc à des effets physiologiques limitants par cette quantité de réserves. Et c'est un peu par cette approche fonctionnelle qu'on est en train de travailler sur la compréhension de ce que certains appellent l'effet mémoire des arbres, que d'autres caractérisent par la notion d'autocorrélation de croissance entre les années, et qui se traduisent en fait par des processus et des besoins en composés de réserve qui peuvent être différents. Toujours sur ces notions de long terme, je voudrais insister sur le fait que c'est des choses qu'on observe, qu'on sait décrire par dendrochronologie, mais qui sont encore du point de vue fonctionnel mal compris et qui sont tout à fait passionnants à étudier et qui font partie d'une de nos grosses thématiques de recherche à Nancy. Ici, je voudrais vous illustrer un événement extrême qui n'est pas du tout climatique, qui est une défoliation par la chenille que vous avez en photo ici, qui s'appelle Limantria dispar, qui est une chenille qui a attaqué, dans cet exemple ici, c'est une forêt de chênes en plaine d'Alsace, des arbres qui avaient des très bonnes croissances, et qui, en l'espace de 2 ans, ont eu des réductions de croissance tout à fait spectaculaires, d'une ampleur et d'une intensité qui n'avaient encore pas été connues sur ce massif, et qui a abouti à la mortalité de toute une partie de la population ici qui est représentée en noir. Donc ici, l'événement extrême, l'élément, on va dire, déclenchant du dépérissement et de la mortalité, est bien une défoliation, donc pas un événement climatique. Mais quand on remonte dans l'analyse de la chronologie, on constate qu'il y avait déjà eu un événement extrême qui avait fortement marqué la croissance en 1920, qui était une sécheresse. Un autre événement qui avait aussi produit une très forte variation brutale de croissance, qui était à nouveau des sécheresses dans la fin des années 40, et que cette sécheresse, à cette période-là, avait commencé à induire une différence de réactivité des arbres, avec, dès cette période, une sous-population d'arbres, qui sont ici représentés en noir, qui vont être finalement prédisposés et moins capables de supporter et de traverser un événement extrême qui apparaît 40 ans plus tard et qui est une défoliation. Donc là, ça rejoint un petit peu ma spirale d'introduction qui montrait que finalement, ces événements extrêmes ont des effets directs, différés, qui peuvent être à très long terme. Je voudrais terminer par une illustration un peu complète d'un autre exemple de dépérissement de chênes que nous avons largement étudié dans nos équipes, qui concerne un massif forestier en plaine d'Alsace et qui est un des massifs de tous ceux qu'on a étudiés en chêne en France qui présente le maximum de réactivité climatique et donc le plus grand nombre d'années caractéristiques. Pratiquement une année sur deux est caractéristique, ce qui signifie qu'une année sur deux, tous les arbres répondent de la même manière. Et donc en termes d'années caractéristiques, nous avons effectivement des variations très marquées qui sont ici représentées par la courbe de croissance moyenne sur laquelle je vous superpose l'intensité des sécheresses telles que je peux les calculer de manière rétrospective par bilan hydrique. Et eh bien, on constate qu'il y a une forte relation entre l'intensité de la sécheresse et la variation de croissance. Donc les années où il pleut, la croissance est bonne, et les années de sécheresse d'autant plus intense, les réductions de croissance sont marquées. Ça, c'est quand on étudie globalement l'ensemble de la population des chênes que nous avons étudiées. À l'intérieur de ces chênes, il faut savoir qu'il existe deux espèces, le chêne sessile et le chêne pédonculé, qui sont co-occurrentes, donc qui sont très souvent en mélange dans nos forêts en France. Et quand on sépare les espèces, eh bien, on constate, avec beaucoup d'intérêt, que les courbes se séparent, ne se séparent pas depuis très longtemps, mais le chêne sessile, qui est ici représenté en vert, a la meilleure croissance, et le chêne pédonculé, qui est en rouge, a une croissance plus faible. Et donc cette étude a été faite parce que en 1994-1995, les forestiers ont constaté de fortes mortalités. Ils se sont empressés de récolter les arbres morts et de nous demander ce qui s'était passé. Et en fait, eh bien, rétrospectivement, on a pu montrer que l'élément qui avait induit une première différence de croissance entre les deux espèces, donc qui joue là à une échelle assez fine, puisque dans le même, la même espèce, enfin, au sein des chaînes, on a une différence entre les deux espèces, l'intensité de la sécheresse de 72 a suffi pour induire une réponse différentielle entre les deux espèces, et donc induire un déclin de la croissance. Par contre, l'élément qui a déclenché les processus de mortalité qui ont alerté les forestiers sont intervenus par la sécheresse de 89, qui est la sécheresse la plus intense qu'on ait pu quantifier sur les 30 dernières années où nous disposions des données climatiques pour faire cette réflexion. À partir des années 94, nous n'avons plus la croissance des arbres, mais vous allez voir que les connaissances et ce qu'on a compris au cours de l'analyse rétrospective de dépérissement nous permet de commencer à pouvoir anticiper ce qui va se passer maintenant et d'aider les forestiers à réfléchir sur la stratégie de gestion qu'il faut avoir dans ce contexte. Donc, à partir de cette période, nous avons continué les calculs de sécheresse et nous avons pu estimer que la sécheresse de 2003 était donc encore plus intense que celle de 89, donc réunissait tous les arguments pour prévenir les forestiers que nous allions entrer dans un nouveau cycle de dépérissement, que nous allions à nouveau rencontrer les problèmes que nous avions connus après 89 et qu'il y allait sans doute y avoir un nouveau processus de dépérissement. Évidemment, je suis partie voir en courant cette forêt fin 2003 et elle était de cette couleur rouge vif, donc avec des symptômes visuels tout à fait inquiétants et tout à fait pour moi révélateurs de ce que je pressentais qui allait se passer. Donc nous avons cartographié sur l'ensemble du massif qui représente 13 000 hectares autour de la forêt de Mulhouse, de la ville de Mulhouse. Nous avons cartographié l'intensité des sécheresses et je vous ai représenté la petite carte à gauche, représente la carte des sécheresses, donc plus c'est rouge, plus c'est la sécheresse était forte, plus c'est vert, moins la sécheresse était grave. Je vous ai représenté en petit la carte de la sécheresse de 89 qui a donc induit le dernier cycle de dépérissement. Et quand on voit la carte avec l'extension de la couleur orange, l'apparition de couleur rouge et la quasi-disparition totale de la couleur verte, on peut s'attendre effectivement à ce que le processus de dépérissement soit évident et soit détendu beaucoup plus importante qu'en 89. Donc nous avons cartographié de manière visuelle ce qui se passait fin 2003 et nous avons en particulier été frappés par l'intensité des chutes précoces de feuilles, les chênes ayant manifesté de manière très spectaculaire des problèmes de dysfonctionnement d'embolie des pétioles et de chute de feuilles tout à fait prématurées. Nous avons pu cartographier ces intensités et pour une fois, nous avons ici l'opportunité de suivre ce processus de dépérissement en direct et de ne pas travailler après coup quand il ne reste plus que les survivants de l'événement. Donc pour essayer de comprendre dans cette population d'arbres qui a subi la sécheresse de 2003, quels vont être ceux qui vont être capables de traverser l'événement et ceux qui ne vont pas être capables de le traverser, nous avons été jusqu'à quantifier, doser les composés de réserve de tous ces arbres et d'en cartographier un petit peu le niveau d'amidon dans les différents chênes de cette forêt. Et connaissant un petit peu la réponse et l'importance de cette quantité d'amidon dans la survie des arbres, je me suis mouillée, c'est le cas de le dire, après cette sécheresse, en annonçant les zones dans lesquelles je pouvais prédire un risque de mortalité plus important qu'ailleurs. Et comme je suis une fille courageuse, j'ai essayé de voir si ma prévision était délirante ou non. Donc nous avons, avec les forestiers locaux, observé et compté les arbres qui mouraient dans cette forêt, grâce à un réseau de placettes permanentes d'ailleurs qui a été réactivé à cette occasion-là. Et nous avons, en 2005, donc déjà 2 ans après l'événement sécheresse, parce que tout de suite on voit des symptômes visuels, mais qui ne présagent pas nécessairement de la survie des arbres. Donc nous avons, et nous poursuivons ces observations, parce que toujours en 2006 et en 2007, de nouveaux arbres continuent à dépérir, et donc à confirmer l'ampleur du phénomène. Donc voilà des zones qui m'ont été identifiées comme étant des zones où il y a des mortalités avérées. Et à partir de l'indicateur donc, qui pour nous va être un élément de réflexion pour aider les gestionnaires à savoir reconnaître et récolter à temps les individus qui sont de toute façon condamnés, qui ne seront pas capables de traverser la crise, nous avons pu montrer qu'effectivement, l'indicateur d'amidon dans les arbres nous permettait de discriminer. Et donc ça, c'est à partir des dosages que j'ai réalisés fin 2003. Fin 2003, je pouvais reconnaître, par des niveaux d'amidon faibles dans les arbres, la proportion d'arbres, ici, qui représente 1 à 2% de la population. Je pouvais prédire quelle était la fraction des arbres qui allaient ne pas être capables de traverser la crise. Et ceci à une échéance assez moyenne, puisque c'est pas ceux qui ne vont pas survivre l'année suivante, ça peut être à 3-4 ans de réponses différées. Donc, dans cette réflexion, ça permet d'avancer des hypothèses et des seuils de vulnérabilité, qui sont des choses qui sont tout à fait manquantes dans la réflexion qu'on a actuellement, pour aider les forestiers à une gestion anticipative, à une gestion un petit peu prudente, et à les aider à récolter les arbres avant qu'ils ne soient colonisés par tous ces agents biotiques secondaires qui vont dégrader la qualité des bois et qui vont fortement dégrader la valeur commerciale des produits qui seront délivrés. Donc de ce dépérissement suivi en direct et qu'on continue à suivre, qui est un nouveau dépérissement après une première vague qu'on avait étudiée uniquement par une analyse rétrospective, eh bien on peut prédire que tous les chênes dans ce massif qui ont des niveaux d'amidon inférieurs à 2 grammes par 100 grammes de matière sèche ont une forte probabilité de ne pas s'en remettre et de ne pas traverser l'événement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, quand on tient compte de la répartition entre espèces, chênes sessiles et chênes pédonculés, eh bien on se rend compte que ça va déséquilibrer encore plus la composition en espèces. Donc ça interpelle les forestiers en termes de gestion durable, en termes de biodiversité. On a 30% des pédonculés qui risquent de ne pas s'en remettre. Et ça, ces prévisions, elles ne reposent que sur la réaction à l'événement climatique. Si on imagine là-dessus un scénario catastrophe qui malheureusement est en train de se produire avec l'arrivée anodine d'ailleurs, de grosses pressions de défoliateurs, parce que les chenilles ont bien aimé la chaleur qu'il y a fait en 2003, donc depuis on a des explosions de population de chenilles qui contribuent encore à affaiblir les arbres. Pour répondre à ces stress, ils utilisent justement leurs composés de réserve. On vient de voir qu'ils n'en avaient plus suffisamment déjà pour survivre. Donc là, c'est même pas la peine. Ils n'ont plus de chance de s'en sortir. Et donc, on peut avoir effectivement l'enchaînement de cette spirale infernale que je vous ai présentée en début d'exposé. Pour terminer sur une note un peu plus optimiste, il faut savoir qu'on est issu de l'équipe qui a mis en évidence en France l'augmentation des productivités des arbres par ces analyses dendrochronologiques rétrospectives, et que l'équipe de Michel Becker et de ses collaborateurs, à l'époque, justement, étudiait déjà un cas de dépérissement, puisque c'était à l'époque du dépérissement du sapin dans les Vosges, qui était attribué à l'époque aux pluies acides. Eh bien, c'est en se posant des questions de comment se comportait la croissance des arbres à cette époque-là qu'on étudiait un dépérissement, on cherchait à comprendre pourquoi les arbres n'allaient plus bien, et on a montré que leur croissance augmentait de plus en plus. Là où je voudrais être prudente, c'est que par rapport à ces... Et donc oui, les niveaux d'augmentation de croissance qui ont été mis en évidence par ces approches dans différentes espèces et dans différentes régions de France étaient tout à fait impressionnants et ne sont pas encore aujourd'hui complètement compris du point de vue des processus physiologiques impliqués, même si tous les effets de pollution anthropique, CO2, dépôts azotés, amélioration de la sylviculture aussi, jouent sur ces effets. Il faut faire attention, cette forêt dont je viens de vous parler avec ces chênes dépérissants et qui va s'amplifier, quand on ne regarde que la population des chênes sessiles, bien là aussi on peut voir une tendance. Et donc on peut aussi dire, malgré les conditions difficiles de cette forêt, l'amélioration des conditions a l'air d'améliorer la croissance. Mais si je superpose là-dessus la population des chênes pédonculés, on voit qu'il peut y avoir une rupture dans cette tendance. Et quand on arrive après la bataille, finalement, les populations de ces arbres qui n'ont pas traversé les événements extrêmes disparaissent et peuvent nous induire un peu en erreur et nous conduire à sous-estimer l'ampleur des événements extrêmes, puisque à chaque événement, une partie de l'échantillon disparaît simplement par mortalité. Pour terminer, je voudrais vous illustrer finalement que tous ces processus de dysfonctionnement d'écosystèmes sont compliqués, font appel à des recherches pluridisciplinaires qui sont tout à fait passionnantes pour cette raison-là. Les événements extrêmes que nos forêts subissent sont de nature très diverse. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous parler de la tempête de 99, Bon, on en a encore des effets aujourd'hui, qui sont des effets, ben, je vous l'ai dit, sur les populations d'insectes, donc qui sont des effets un petit peu bombes à retardement, qui sont latents et qui sont prêts à exploser si les arbres sont affaiblis. On a des effets anthropiques tout à fait indirects. Les forestiers sont empressés de débarder, de nettoyer les parcelles détruites par la tempête parce que ça faisait désordre et ça faisait vilain dans le paysage. Il y a eu du coup des dégradations de sol tout à fait considérables. On a maintenant des effets, des arrière-effets monstrueux de dégradation des conditions physiques des sols qui sont des effets qui peuvent perturber la régénération, qui peuvent perturber la réinstallation des dynamiques naturelles qui pourraient suivre ce type de perturbation majeure. On a des effets de canicule, d'interaction avec des maladies fongiques au niveau racinaire qui profitent aussi de l'affaiblissement des arbres. Les insectes, je vous en ai parlé. Des dégâts de gel, ah oui, on pourrait bien avoir un printemps avec un dégât de gel, ce qui pourrait nous accélérer encore des affaiblissements d'arbres, des sécheresses évidemment. Des excès d'eau, je vous en ai pas parlé, mais dans le contexte des changements climatiques, c'est une question qui nous préoccupe. On nous annonce des sécheresses plus importantes en été, mais aussi des printemps plus pluvieux. Et finalement, au démarrage de la végétation et de la reprise de croissance des arbres, ces effets d'excès d'eau peuvent être tout à fait dommageables. Et on a actuellement des cas de dépérissement qui sont des conjonctions d'excès d'eau au printemps des années 2000-2001, suivies par la sécheresse extrême de 2003. Finalement, quand on essaye de prendre un peu de recul après toutes ces études de cas, qui sont quand même finalement les questions des forestiers, ça crève chez nous, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un dépérissement standard ou non? Finalement, les écosystèmes forestiers sont des systèmes très dynamiques qui subissent régulièrement des cycles et qui s'adaptent à ces événements, à ces perturbations. Les perturbations majeures peuvent être des événements extrêmes, climatiques, biotiques, voire des interactions entre les deux. Et en principe, nos écosystèmes sont capables de récupérer, de se régénérer, de se réinstaller et de repartir dans ce cycle après une phase donc de réorganisation et de remise en route d'une succession forestière qui va réaboutir à un peuplement en équilibre. Mais nous travaillons dans des écosystèmes gérés et finalement, on se rend compte qu'on a des cas et qui vont être étudiés dans les années à venir. Ce sont des écosystèmes sur lesquels nous avons beaucoup de questions de la profession. Nous avons des cas où, brutalement, on n'arrive plus à revenir à l'équilibre et à réenclencher la succession. Je vous parlais par exemple des dégradations de sol par les exploitations un peu dramatiques après la tempête. Typiquement, on a des endroits où les sols ont été tellement massacrés qu'il y a une explosion de végétation concurrente, de joncs, parce que les sols ont été tassés, de remontées de plans d'eau, qui amène à des impossibilités de régénération naturelle, alors qu'il y avait des graines, il y avait des semis, il y avait la possibilité théorique que la régénération s'installe, mais les dégradations des sols sont telles que la régénération ne peut pas s'installer. Et on est dans des situations où le forestier va avoir un rôle tout à fait proactif dans ce processus de rupture brutale et de changement d'écosystème parce que ils se rendent compte qu'ils ne savent plus assister une régénération naturelle dans ces situations-là et ils vont être amenés à passer complètement à d'autres écosystèmes. Et on a des exemples actuellement où on envisage de transformer des chênaies en plantations de pins qui vont être complètement artificialisées et qui vont être donc une rupture brutale dans la succession des écosystèmes. Merci.
C'était Nathalie Breda qui revenait pour nous sur les marques des événements climatiques passés sur les écorces d'arbres. Nathalie Breda est ingénieure à l'Institut National de Recherche Agronomique, département écologie et écophysiologie forestière. Nous marquons une courte pause avant d'aborder la faune maritime avec Lucien Laubier. Thank you. Retour à notre colloque écosystèmes et événements climatiques extrêmes organisé par l'Académie des sciences en juillet 2007. Nous restons sur la thématique des réactions écologiques face aux événements climatiques. Lucien Laubier du Centre d'océanologie de Marseille développe sa spécialité, le monde marin. Ouragans, tsunamis, glissements de terrain, coulées de lave, tous ces événements contribuent à modifier cet environnement. On l'écoute.
Qu'est-ce que c'est que le climat marin? Est-ce qu'on peut parler d'un hydroclimat? Là, la réponse est oui, mais après les deux exposés que nous avons eus ce matin, il est clair que je vous parlerai très peu de précipitations et de sécheresses. S'il y a une chose qui ne manque pas dans l'océan, c'est l'eau. Ça, c'est incontestable. Mais il n'y a pas que les événements d'origine climatique. Alors ici, j'ai cité, bien sûr, les tempêtes, les cyclones, leurs impacts à peu près inconnus, mais qui existent quand même, nous en parlerons. Et j'ai tenu à préciser, au niveau de la masse d'eau qui est contrainte par cet événement extrême, la durée qui s'exprime soit en heures, soit en semaines, vous allez le voir, éventuellement en mois. Alors, les anomalies de température, bien entendu, jouent un rôle important. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y a les événements géologiques qu'on ne pouvait en aucun cas oublier, dès lors en particulier qu'on s'adresse à l'océan dans son ensemble, y compris à l'océan profond. Les glissements de terrain sur les marges constituent, même si nous n'en apprécions pas les effets, nous n'avons pas aujourd'hui les outils permettant d'apprécier les effets, constituent des phénomènes tout à fait importants et plus fréquents qu'on ne le croit. Ça a été, au cours des années 1965-70, la découverte des Benthic Storms, qui ne sont que l'aboutissement sur la plaine abyssale de ces avalanches sous-marines qui dégringole à des vitesses que là, on a pu connaître à travers les ruptures de câbles sous-marins, c'est important aussi. Et puis, je crois qu'il faut aller jusqu'à la géophysique. Comme le disait tout à l'heure le Président, il faut avoir un regard extrêmement large sur ces questions-là. Et il se trouve que à 2 ans de distance, nous avons encore tous en mémoire le terrible tsunami du 26 décembre 2004, qui a produit les effets que l'on sait sur une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Et enfin, bien sûr, j'ai intitulé le panneau qui débute, la diapo qui débute, et l'homme dans tout cela. Et enfin, il y a donc les événements qui sont partiellement naturels, partiellement anthropiques, où les deux choses se mélangent. Alors j'avais devant moi déjà un cadre relativement important. Alors je me suis dit ensuite, pour préparer un exposé de cette sorte, il faut prendre un manuel qui traite par exemple des catastrophes écologiques. Et je me suis adressé à un manuel bien connu, écrit par notre collègue François Ramade, en 1987, ce n'est pas très ancien, mais j'ai vainement feuilleté la table des chapitres, les index, pour m'apercevoir qu'il n'y avait jamais eu, apparemment, de catastrophe dans le milieu marin. Il s'agit d'un ouvrage de 400 pages qui fait le point avec beaucoup de détails, qui m'avait à l'époque enthousiasmé sur les feux de forêt, les régimes méditerranéens des feux de forêt, etc. Mais par contre, dans l'océan, il n'y a rien. Alors, je suis revenu à ce moment-là à la définition de l'hydroclimat et j'ai mis dans l'ordre ici les 5 facteurs qui me paraissaient importants, qui me paraissent avoir joué un rôle ou continuer d'en jouer un dans certains événements extrêmes et en tout cas dans les tendances lourdes, comme on l'a vu hier avec l'acidification que l'on peut prévoir des couches, je ne vais pas dire superficielles, mais supérieures de l'océan à la suite des introductions de l'excès de CO2 atmosphérique. Donc la température, et comme sur Terre, on a les valeurs moyennes, on a les valeurs extrêmes, on a les gradients à diverses échelles de temps et d'espace. La densité, qui résulte de la combinaison de la salinité et de la température, et d'une certaine manière de la profondeur à travers le facteur pression. La turbulence, à toutes ses échelles, donc depuis la microturbulence jusqu'au passage d'un cyclone qui, en plus, a un effet thermique considérable, puisqu'il résulte d'une évaporation dont on nous dit qu'elle sera accrue dans les cyclones à venir, compte tenu de l'écart de plus en plus fort entre la température de la mer et la température atmosphérique. Et puis, bien sûr, l'éclairement. Là, à l'exception des éclipses, je n'ai pas trouvé de toute façon de réponse événement extrême. Le pH, Et là non plus, je le vois comme une tendance lourde, et donc je ne l'ai pas spécialement prise en compte, et ce qui en résulte, l'équilibre bicarbonate-carbonate. Alors, avançons un petit peu maintenant, pour des rappels, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'océan. Ben, en ce qui concerne la température, toutes les analyses nous montrent que l'océan est un objet tampon, considérable par sa masse et par son étendue superficielle. Et vous voyez ici, pour les trois océans principaux, Indien, Pacifique et Atlantique, par rapport à ce qui se passe à Terre, non pas les valeurs de température, mais les écarts moyens annuels de température, qui dans l'océan atteignent 7 à 8 degrés pour les moyennes latitudes, de l'ordre de 40 degrés nord ou 40 degrés sud, un peu moins dans l'océan de l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, alors que sur Terre, effectivement, les écarts continuent de s'accroître lorsqu'on monte vers le nord pour atteindre, vous le voyez ici, une quinzaine de degrés. Bon, ça, c'est des choses très connues, mais c'est pour vous montrer un point essentiel du rôle de l'océan, qui est l'effet tampon sur les variations de température. Alors, le deuxième point, les caractéristiques principales de l'océan dans ses trois dimensions, c'est effectivement ces deux courbes qui le résument le mieux. Une thermocline, une zone de thermocline entre 0 et 500 mètres, c'est-à-dire de variation rapide de la température, une zone d'allocline, de variation rapide de la salinité, entre 0 et un petit peu plus, et puis ensuite, à partir de 500 à 1000 mètres, on peut dire qu'il ne se passe plus grand-chose et que l'océan profond est un milieu bien agréable à vivre, puisqu'il n'y a pas de température variée à supporter au long de l'année, pas plus que de salinité. On est là, si on est bien adapté à ces conditions-là, dans le plus grand calme. Alors, analysons un tout petit peu plus en détail ce qui se passe dans la partie superficielle de l'océan, entre 0 et 120 mètres sur cette coupe. Vous voyez là simplement la température. Les quatre saisons, comme chez Vivaldi, sont exposées depuis l'hiver, avec une verticale à 10 degrés qui descend jusqu'à 100 mètres avant d'accentuer encore la baisse. Le printemps, une légère remontée thermique. L'été, un maximum qui ici, il s'agit d'une zone tempérée entre 40 et 50 degrés qui ici peut atteindre 18-19 degrés en surface. On a à ce moment-là formation temporairement d'une thermocline très superficielle qui en hiver sera remplacée par une thermocline profonde en dessous de la couche mélangée par le vent. Et vous voyez enfin l'hiver. Bon, je passe là-dessus, c'est des choses relativement connues, mais je voulais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent que de loin l'océan, qu'on peut définir des hydroclimats de la même manière qu'on le fait sur l'atmosphère. Évidemment, ce ne seront pas les mêmes facteurs, mais des choses sont quand même possibles. Alors, je voulais prendre, il se trouve que je l'ai vécu, un exemple concernant une variation de température de la mer. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de l'année 2003, je vous parlerai de l'année 1999, qui pour moi, en Méditerranée, a été une année de référence. Et je vous emmène à 30 à 40 mètres de profondeur sur des substrats rocheux, dans ces zones dites coralligènes, non pas qu'elles sont construites par le corail, mais qu'au contraire, elles permettent au corail d'exister, elles génèrent le corail, et il s'agit du corail rouge de Bijoutier, et au triste sort de ces éponges et de ces gorgones. Alors, que s'est-il passé au cours de l'année 99 en Méditerranée? Eh bien, l'année a d'abord été marquée par un mois de mai avec très peu de mistral et des remontées assez sensibles de vent du sud-est jusqu'en rade de Marseille, où sont arrivées les méduses qui habituellement se bornent à vivre du côté de Saint-Raphaël, d'Hyères, mais s'arrête généralement à la presqu'île de Gien et reste en pleine mer. Là, poussées par les vents de sud-est, les masses d'eau en question sont arrivées jusqu'à la côte. Et puis, en juin, rien de particulier, un mois de juillet extrêmement calme, très peu de vent, et en particulier très peu de mistral. Et au mois d'août 1999, vers le 10-15 août, un cri d'alarme de tous les clubs de plongée depuis la frontière italienne jusqu'à Marseille à peu près. Nos belles gorgones rouges et jaunes sont en train de mourir. Que pouvez-vous y faire? C'est encore une fois la pollution. Alors on part sur le thème pollution, on réfléchit, on regarde. Qu'est-ce qu'on savait sur la Méditerranée? Alors les physiciens ne nous apportaient pas grand-chose puisqu'ils n'avaient pas d'observatoire. Et la seule courbe que l'on ait eue à l'époque, la voilà, elle a été faite par un artisan hors océanographie, un amateur, mais qu'il faisait avec un très bon thermomètre à renversement Richter, de meilleure qualité qu'il soit, et qui a donc fait des mesures près des îles Mèdes. Si certains d'entre vous connaissent la région, c'est en face d'Estartite, donc à peu près à égale distance de la frontière franco-espagnole et de la ville de Barcelone, poussée au large pendant à peu près 5 000, et vous avez ces îlots rocheux des îles Médès, ou Mèdes en français. Alors voilà ce qu'il avait constaté. Lui, il avait commencé à travailler en 74, comme on dirait là-bas, et c'était sur cette courbe, il s'est arrêté à 2002, et vous voyez sa tendance moyenne maximale, elle est enregistrée à 20 mètres de profondeur, avec une augmentation sur la période qui est de l'ordre de 30 ans, un tout petit peu moins, oui, 74-2001, ça fait un petit peu moins, de 1,26 degré. Alors, est-ce que ce 1,26 degré pouvait signifier quelque chose pour la faune et la flore méditerranéenne? Alors ça, les biologistes sans thermomètre avaient néanmoins déjà dit, mais il se passe quelque chose de particulier dans cette Méditerranée nord-occidentale de nos côtes françaises, c'est l'arrivée d'un certain nombre d'intrus et au passage la réduction de quelques autres espèces. Je vous bornerai à vous montrer les intrus. Voilà la baliste de Caroline, la balistesse Caroline Assis, qui est arrivée à peu près depuis une vingtaine d'années en Méditerranée, où elle devient fréquente alors qu'elle était très rare, voire complètement absente, sur les zones les plus froides dans le golfe du Lion. Voilà un autre intrus qui, il y a 30 ans, était limité au golfe de Naples en Italie et à peu près à la latitude de Valence, la girelle pan, qui est montée progressivement jusqu'à Marseille maintenant, où elle est très fréquente. Ce petit degré 26 annuel a suffi à lui ouvrir les portes du Nord. Le mérou est là parce qu'il a repris la bonne habitude de se reproduire sur les côtes françaises méditerranéennes, alors qu'il avait cessé de le faire, et s'il était présent l'été en tant qu'intrus venu du Sud. Et la grande cigale, dont peut-être vous avez apprécié les qualités gustatives, qui, elle, avait pratiquement disparu des côtes françaises. Et puis enfin, quelque chose que j'achète maintenant régulièrement sur les étals de mes poissonniers de Saint-Raphaël, c'est le barracuda. Le barracuda, il y avait des barracudas en Méditerranée, mais ils ne dépassaient pas Malte ou pratiquement le sud de la Sicile, mais pas plus haut. Eh bien, ces barracudas, je ne sais pas encore si on peut affirmer qu'ils se reproduisent, mais en tout cas, ils ont pris l'habitude de venir vivre dans les eaux nord-méditerranéennes sans difficulté. Donc, il y avait de nouveaux venus, et depuis 1994, on avait signalé cela. Alors, il se trouve que pour l'année 99, on avait commencé de faire des mesures avec des thermographes enregistreurs qui peuvent rester 6 mois, 1 an dans l'eau et nous faire des séries de mesures fantastiques. Alors, vous voyez tout de suite sur l'écran de la partie droite de l'écran ce qui s'est passé. Vous avez l'année 98 en jaune clair, avec des grands creux qui hachent aussi bien septembre que août-septembre, que la fin juillet, hein, des chutes à des températures de l'ordre de 14 à 15 degrés, c'est-à-dire en dessous de la thermocline estivale saisonnière méditerranéenne. En 2000, c'est l'oranger, vous voyez un peu la même chose aussi, avec une énorme, depuis la mi-août jusqu'à la mi-septembre, pratiquement une chute très très basse. Et ce n'est qu'au cours de l'année 99, pardon, en rouge, que vous voyez cette extraordinaire tenue au-dessus des maximaux de la thermocline, donc à 23-24 degrés, entre la fin du mois de juillet et la fin du mois de septembre, et même le début du mois d'octobre. J'insiste là-dessus parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Là, dans l'événement extrême, ce qui est extrême, ça n'est pas la valeur absolue de la température. À la limite, vous la trouvez atteinte en 1998, au tout début de la saison. En revanche, la combinaison durée d'exposition et valeur absolue, elle, constitue un événement extrême, et cet événement extrême est à l'origine et explique totalement les mortalités de gorgones et d'éponges que nous avons observées. Alors voilà, pour ceux qui s'intéressent aux coraux tropicaux, l'équivalent chez deux espèces méditerranéennes, un cladocora en haut, une oculina en bas. Voilà la mortalité qui résulte. Les sénanchymes vivants sont brun clair. Vous voyez qu'en haut, il n'y en a pratiquement plus. Tout a été grillé, si j'ose dire. En bas, il en reste un petit peu plus. Et puis, voilà comment étaient les belles gorgones jaunes et rouges de tout à l'heure, entourées de blooms mucilagineux, et on a chiffré, par extrapolation bien sûr, à des millions d'individus, ceux qui avaient été tués entre l'archipel toscan en Italie et le golfe de Marseille. Je m'arrête là, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà comment se présentaient ces gorgones, avec encore quelques restes de sénanchymes vivants rouges, mais ils vont disparaître, ils vont tomber. Partout, des zones mucilagineuses de tissus bactériens en train de dégrader les tissus de la gorgone, et puis le squelette de gorgonine qui reste là, bien sûr, pour témoigner de l'existence antérieure. On a même fait des études de biomasse pour constater qu'effectivement, il y avait une assez forte diminution de biomasse. Et voilà la conclusion de ces affaires-là. Alors, en termes évolutifs, pour mon ami Claude Combes, je dirais que si ces mortalités ont été constatées jusqu'à Marseille, ensuite, à l'ouest, et notamment dans le golfe du Lion, et tout particulièrement dans la région de Banyuls, que j'ai des raisons de bien connaître, eh bien, il n'y a pas eu de mortalité. Alors, question pourquoi ? Réponse, point d'interrogation multiple. Dans la région du golfe du Lion, il y a deux zones habitées par ces gorgones. Il y a une zone qui est le bas de la falaise littorale, entre 45 mètres et puis 20 mètres, 25 mètres. Et puis il y a d'autre part, au-delà du plateau continental qui mesure 10 à 12 kilomètres de largeur, à partir de 100 mètres, on retrouve ces gorgones. Donc il est très possible de penser, ou de faire l'hypothèse, que le stock profond banyulinque est particulièrement fragile. Il n'est pas adapté aux hausses de température, il ne les a jamais connues. Là, ça lui a fait un choc. Seulement, ces larves, elles restent là où il est, donc elles n'ont pas été touchées. Et il est normal de penser, à l'inverse, que les stocks littoraux banyulinques, préhabitués, préadaptés, ont su passer le cap parce qu'eux avaient déjà connu des étés un petit peu chauds, un petit peu longués, et leur planula avait pris l'habitude de se fixer malgré tout. À Marseille, ou plus à l'est sur la côte, où on a une chute, un tombant à peu près régulier et continu, et très brutal, entre 40 mètres de profondeur et 120 mètres de profondeur, on peut penser que des courants d'upwelling font remonter régulièrement des bouffées de larves profondes qui, elles, ne sont pas adaptées, mais font également remonter en bonne période des larves un petit peu moins profondes et que l'absence de cette frontière que représente le plateau continental, et je m'aperçois que je m'exprime très mal, dans le cas de Banyuls, n'existe pas dans le cas de Marseille et de la côte provençale. Donc on pourrait de cette manière-là expliquer qu'il y ait déjà, dès maintenant, dans les formes littorales de Marseille, des espèces qui arrivent, qui ne savent pas résister et qui vont mourir si elles sont exposées à une forte température. Certes, il peut y avoir aussi des planulas provenant de parents vivant à petite profondeur, ben ceux-là, oui, on les retrouve à travers une hétérogénéité de la répartition des mortalités tout à fait considérable. J'avance vite parce que ça serait très long. Pour vous dire une chose qui m'a... Alors là, je l'ai appris depuis 3 semaines, parce que je viens de lire deux articles intéressants sur les analyses satellitales, de données satellitales, sur la production à travers les quantités de chlorophylle et sur la production nette qu'on peut en déduire par calcul. Et on montre que l'année 99 s'est traduite par un effondrement de l'ordre de 20% de ces deux facteurs, taux de chlorophylle et production primaire végétale en pleine mer, dans l'océan mondial. Je ne parle pas de la zone El Niño, je parle de toute la zone mondiale. Et qu'il faut attendre 2005 pour qu'une lente remontée nous ramène à la même valeur. Alors jusque-là, j'avais considéré que l'observation faite en Méditerranée de 99 était une anomalie. Aujourd'hui, j'en suis beaucoup moins sûr et j'ai plutôt tendance à dire qu'elle fait partie d'un changement général. Là, je vais passer très vite, pour vous rappeler ce que l'on sait sur l'augmentation de la température. Je suis allé jusqu'à 2000, mais par rapport à ce que je viens de dire, je vous demande de faire attention à 97, 98. Oui, je dois déborder un peu. Alors, j'avance. 97, 98, El Niño, La Niña. Alors, ensuite, l'agitation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on connaissait qualitativement des indices qui nous montrent que les œufs de poisson, au cours de leur développement, et en particulier de la gastrulation, un stade du développement embryonnaire, eh bien, souffrent beaucoup des ébranlements que leur infligent les vagues déferlantes, et ceci en pleine mer comme en basse latitude. Et puis, je l'ai mis en gras parce que c'est tout à fait important, la forte évaporation des passages de cyclones qui donnent déjà des baisses de température très brutales, ça se passe en quelques heures, de l'ordre de 10 degrés pour les 50 premiers mètres, et qui a des chances donc de devenir plus importante encore par la suite. Alors, les vagues déferlantes à la côte, j'en parlais hier avec deux collègues qui voyaient eux, essentiellement, ce qui se passe pour l'homme sur ces falaises. Moi, je me suis franchement placé délibérément dans le milieu marin. C'est là que les choses m'intéressent. Donc, j'ai rappelé que la vague de tsunami du 26 décembre a déplacé des blocs de plusieurs dizaines de tonnes de coraux agrégés sur plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. J'ai rappelé aussi tout ce que peut arracher la mer et que l'on trouve ensuite sur la côte en vague de tempête. Après les tempêtes côtières, le pousse-pied, mais il y a bien d'autres espèces sur lesquelles on pourrait parler. Alors, les glissements et les avalanches sous-marines, j'ai rappelé le premier cas d'école que constitue Terre-Neuve 1929, une vitesse de 70 km à l'heure, grâce à un réseau de câbles téléphoniques, il y en avait une douzaine, qui ont été rompus successivement, et d'après les dates de rupture, on a pu reconstituer ces vitesses. Alors, l'impact sur ces écosystèmes marins, c'est un des rares cas où, quand on y repasse encore aujourd'hui avec des traîneaux photographiques, on découvre des gisements entiers d'un bivalve qui atteint cette dimension-là, coquilles mortes, tout cela est sans doute le reliquat en 1930 de l'avalanche, enfin du glissement de terrain, qui s'est produit en 1929. Alors, quelles sont les surfaces intéressées? Elles ne sont pas nulles. Ici, c'est 20 000 km² quand même. Donc, tout en étant un phénomène local, c'est quand même un phénomène d'une certaine ampleur. Alors, je pense qu'il n'est pas utile que je vous parle beaucoup du 26 décembre 2004. Là, tout le monde l'a regardé, sauf peut-être pour une chose. Maintenant que j'ai expliqué les données géophysique, si on peut dire. Pour une chose, c'est ce que l'on a trouvé. Le paragraphe du milieu de ce panneau, nombreux cadavres d'animaux marins, et pour une bonne part d'entre eux, ce sont des animaux de profondeur, et le plus souvent des poissons. Donc tout se serait passé comme si le tsunami ait joué le rôle d'une grenade de braconnier particulièrement forte, et que l'explosion suivie d'implosion qu'a représenté la montée du plancher de la croûte est eu comme effet cela. On n'en sait rien de plus. Mais la même observation, une observation comparable, a été faite tout récemment pour la belle coulée de la Fournaise à La Réunion, qui est allée jusqu'à 300 mètres de profondeur, pense-t-on. On a vu remonter des poissons bathypélagiques de cette zone-là, eux aussi tués. Alors, pas tués par les explosions, tués probablement par une mise en suspension de sulfure d'hydrogène, dont on a beaucoup parlé hier, du H2S et d'autres produits. Alors, bon, je laisse de côté Lisbonne, je laisse de côté le Krakatoa, mais tout ceci pour dire que ça a eu à chaque fois des influences, des impacts sous-marins tout à fait importants. Bon, pour la forme, j'ai voulu vous montrer maintenant des traces un peu directes. Pour ce qui concerne les volcans, on en a parlé beaucoup hier, il y a également des volcans sous-marins tout à fait importants. Clipperton est un ancien volcan sous-marin, mais nous allons trouver mieux que ça. Voilà des traces d'activité. Nous avons perdu une planche en transférant de Mac à PC. C'est pour ça qu'il y a une légende double, alors qu'il n'y a qu'une photo, qui est la deuxième, la fissuration du plancher océanique. Et voilà, alors, leçon à gauche, elle n'est pas très intéressante, mais regardez la photo de droite, c'est un volcan sous-marin, c'est un des plus grands que l'on ait identifié avec le fameux Gloria britannique. Il mesure 10 km à peu près de diamètre à la base, il atteint près de 2000 mètres à peu près, il est en pleine activité, certainement, ça on n'y est pas allé voir encore, le Gloria se remorque en surface, heureusement. Et vous voyez que ces volcans sous-marins, compte tenu de la surface océanique et de la proportion que l'on est en droit d'attendre de la théorie de la tectonique des plaques, ne doivent pas non plus épargner les écosystèmes profonds. L'impact des coulées de lave, c'est pour aller très vite. Bon, simplement pour vous dire qu'on a eu une fois quand même la chance d'avoir un sous-marin en même temps qu'une explosion sous-marine sur une dorsale, et les gens dans le sous-marin sont restés dans le noir complet pendant 5 ou 6 heures avant de se décider à remonter. Et revenant 3 jours après dessus, on a vu les résultats de la lave qui a brûlé la plupart d'eux. Alors là, je voulais voir l'homme dans tout cela, mais on va quand même dire très vite que l'homme s'en mêle aussi pour les glissements de terrain. C'est le cas de l'aéroport de Nice, c'est ancien. J'ai cité quelque chose qui est moins connu, qui est la formation d'une couche d'eau douce sur une surface marine par temps très calme et une eau douce déjà très chaude. Donc on a une différence de densité très forte, il n'y a pas mélange d'eau, et par contre, il y a consommation de l'oxygène dans la partie marine, et cette consommation d'oxygène va jusqu'à l'hypoxie ou l'anoxie, mais en tout cas, on a ramassé une quarantaine de tonnes de cadavres de poissons et d'invertébrés à la suite de cet accident naturel amplifié par le lâcher du barrage d'Arzal de l'homme. Les malaïgues sont une similitude de ça. Alors, ça, je n'ai pas voulu insister là-dessus, hein. Bien sûr, c'est trop connu. Les marées noires, l'action humaine, l'exemple de l'Hémoco, bon, ça ne vaut pas la peine que je le lève. Alors, les éléments de conclusion, je dis deux mots quand même, si vous me le permettez. Nous n'avons actuellement aucun moyen systématique d'observer, et je dirais même aucun moyen technique d'observer immédiatement après un grand événement brusque, qu'on sait à peu près identifier, ce qui s'est produit. Ce que j'ai pris comme événement extrême, vous l'avez peut-être noté dans ma planche de présentation, ça va grosso modo d'une durée de l'heure, de quelques heures à quelques mois. Et j'ai ajouté, bien sûr, que lorsque le littoral terrestre est concerné, bien, on n'a vraiment pas le temps d'aller regarder ce qui s'est passé sous les ondes marines et on s'occupe des sauvetages, des personnes, des biens et de ce qui reste comme installation. Tous les événements extrêmes que j'ai choisis entraînent une mortalité immédiate, pas nécessairement totale, hein, j'ai bien insisté, mais mal, sur le cas des Gorgones. Enfin, il faut que ça aille jusque-là. Alors, bien entendu, on ne peut pas oublier ce que l'homme fait. La recolonisation, parce qu'il faut toujours être un petit peu positif dans tout ça, quelques années à quelques dizaines d'années pour les pires des marées noires. Et grosso modo, les choses sont revenues. Alors, pour moi, je conclue un peu différemment de Laurent, qui hier nous parlait beaucoup d'acidification, ce qui s'explique très bien compte tenu de l'approche qu'il avait, la tendance lourde, et d'autre part, la spécialité qui est la sienne dans la biologie, les foraminifères, particulièrement exposés à la moindre trace d'acidité. Je pourrais lui dire qu'il y a des crabes à carapace calcaire qui vivent à des pH de 1 autour des sources hydrothermales, mais c'est vrai qu'ils en ont plus épais sur la peau, si j'ose dire. Le principal facteur climatique, donc, la température, valeur et durée, valeur absolue et durée, et en profondeur comme au large, on ne dispose encore que d'éléments le plus souvent qualitatifs. Cela est donc très mal connu. Merci de votre attention, and excuse me for having spoken in French.
C'était Lucien Laubier, professeur au Centre d'océanologie de Marseille. Il revenait pour nous sur les conséquences des événements climatiques extrêmes sur le monde marin. Cette troisième retransmission d'une série de cinq consacrée au colloque écosystèmes et événements climatiques extrêmes se termine ici. Retrouvez sans plus tarder les autres enregistrements dans la médiathèque de Canal Académie. Elles sont toutes en libre écoute et libre téléchargement. Ce colloque écosystèmes et événements climatiques extrêmes était organisé par l'Académie des sciences en juillet 2007 à la Fondation Simone et Cino Del Luca. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.